Il est 22h sur Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Record absolu de pluie dans le Gard. Les orages violents ont provoqué des inondations éclairs. Une personne est activement recherchée ce soir. Le ministre Gérald Darmanin est sur place. Plus de bleu sur le terrain. Emmanuel Macron veut doubler les effectifs des forces de l'ordre en patrouille. Le chef de l'État a fait une série d'annonces sur le terrain de la sécurité. Détail dans un instant. La vaccination des soignants devient obligatoire à partir de ce mercredi, sous peine de sanction. Une minorité fait toujours de la résistance. On verra les chiffres de la vaccination chez les blouses blanches. Vous voulez vous lancer dans l'achat d'une maison, d'un appartement? Attention, les règles des prêts immobiliers vont se durcir. Explication à suivre. Premier test pour Lille en Ligue des Champions. Ce soir, le LOSC reçoit Wolfsburg. Sébastien Bouet, on entre dans la deuxième période.
Ouais, non, c'est toujours la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy. Ouais, c'est la mi-temps. 0-0 entre le LOSC et les Allemands de Wolfsburg. Et si on avait quelques inquiétudes avant le coup d'envoi pour le champion de France à la peine depuis le début de saison en Ligue 1, eh bien, pour le moment, les Lillois sont très rassurants, répondent présents. Cette Ligue des Champions semble les avoir transfigurés. C'est un petit peu la magie de la Coupe d'Europe. Les Nordistes ont retrouvé ce soir les vertus de la saison dernière. La combativité, la solidité dans le jeu. Ils ont été les plus convaincants, ont dominé la première période. Peu d'occasions, peu de tirs cadrés, seulement deux pour les Nordistes, mais ils ont maîtrisé les 45 premières minutes. Il ne manque plus que la petite étincelle en attaque. 0-0.
Merci Sébastien, on vous retrouve à la fin de ce journal. Hein, et vous retrouverez bien sûr aussi Top à Wall Street avec Didier Hamo. L'invité éco ce soir, Louise Godineau du syndicat des audioprothésistes. Figurez-vous qu'il ne s'est jamais vendu autant de prothèses audio en France. Vous verrez pourquoi. Et puis on découvrira ensemble les unes de la presse pour demain matin. Le Gard espère avoir évité le pire ce soir après les orages violents. Près de 20 000 éclairs ont été enregistrés sur le département. 25 cm de pluie en 3 heures. C'est un record absolu local selon Météo France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu ce soir dans les secteurs sinistrés.
Plusieurs personnes ont été portées disparues, puis en partie rassurées par les propos qu'on a pu avoir des élus. Des pompiers, de la préfecture, des gendarmes, que je remercie une nouvelle fois. Et à ma connaissance, une personne est encore recherchée, dont nous cherchons à avoir effectivement des nouvelles les plus précises possibles. Évidemment, ces recherches continuent avec les élus locaux. Une soixantaine de communes du Gard ont été particulièrement touchées. Je suis dans l'une d'entre elles ici, et je suis venu dire aussi aux élus que dès la semaine prochaine, nous réunirons la commission de catastrophe naturelle avec la ministre de l'écologie pour déclarer, monsieur le député l'a souhaité, déclarer l'état de catastrophe naturelle. J'appellerai dès demain matin la présidente de la Fédération des assurances également.
Voilà, une personne activement recherchée ce soir dans le Gard après ces pluies exceptionnelles. 900 pompiers toujours mobilisés dans le département. Stéphane Burgat, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard. Beaucoup de dégâts ce soir?
Il y a des dégâts matériels qui sont assez importants, même si l'épisode fut de courte durée. Sa violence a impressionné Tanguy, qui était occupé tout à l'heure à nettoyer son appartement en rez-de-chaussée dans le village d'Aubord.
C'est quand même monté à 15 cm à l'intérieur. Donc, mine de rien, ça fait quand même des dégâts. Attendre que l'eau redescende pour tout évacuer. J'ai le canapé qui a un peu pris. Après, ma porte qui a cédé aussi à cause de la pression de l'eau. Ça a été violent, très violent. Ça arrivait en même pas une heure. La marche, là, vous voyez, elle était sous l'eau. J'ai eu un peu peur quand même. Ouais. Toutes mes serviettes, même mon plaid y est passé pour essayer de bloquer et tout. À coup de casserole, à coup de seau pour essayer d'enlever le maximum d'eau. C'était très dur. D'abord, je m'occupe d'abord d'ici. Après, la voiture, on verra après. Là.
Et l'autre conséquence, ce soir encore, ce sont des conditions de circulation dantesques sur autoroute comme sur le réseau secondaire entre Nîmes et Montpellier.
Trois quarts d'heure qu'on n'avance pas. Et on a pris un tout petit risque à la Bastide, puisqu'il y a à peu près 10 cm d'eau sur la route. On a tenté de passer, mais après, depuis, on n'avance pas, quoi. C'est embêtant, mais après, il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'attendre.
On ne sait pas trop par où passer non plus.
Ouais. On espère juste qu'on ne va pas y passer la nuit, c'est juste ça, voilà.
Les écoles du Gard resteront fermées demain, seules les crèches ouvriront.
Merci Stéphane Burgat dans le Gard. Pour Europe 1, 12 départements restent en vigilance orange dans la moitié sud, la plupart pour risque d'inondation. On fera un point météo complet à la fin de ce journal. Emmanuel Macron relance le chantier de la sécurité des Français. Le chef de l'État clôturait à Roubaix le Beauvau de la sécurité. Il souhaite penser la police et la gendarmerie de 2030. Le chef de l'État a fait une série d'annonces qui visent à améliorer la sécurité des Français, Jacques Serret.
Oui, suppression des rappels à la loi, mise en place de deux nouvelles amendes pénales forfaitaires à partir du mois prochain pour l'occupation illicite de terrain ou encore l'occupation illicite de hall d'immeuble. Emmanuel Macron veut plus d'efficacité. Le chef de l'État indique qu'il a confié la mission au ministre de la Justice de simplifier drastiquement la conduite des enquêtes. Simplification comme la mise en place de la plainte en ligne en 2023. Surtout, il a fixé ce cap pour la décennie à venir.
La première exigence et ambition, plus de bleu sur le terrain. Et je veux nous fixer un horizon. Augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique.
Pour Emmanuel Macron, une présence accrue des forces de l'ordre, c'est rassurant pour nos compatriotes, dissuasif pour les délinquants.
Alors, toutes ces annonces ne sont pas nouvelles, hein, et surtout, Jacques, toutes ces annonces ne sont pas réalisables d'ici à 2022.
Oui, le chef de l'État a annoncé qu'en 2022, le ministère de l'Intérieur verra son budget augmenter d'1,5 milliard, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures de ce Beauvau de la sécurité. Alors ça, c'était prévu et Europe 1 vous le révélait déjà en décembre dernier. Mais oui, tout ne pourra pas être fait avant l'élection présidentielle. Emmanuel Macron s'est projeté sur l'après 2022 en confirmant l'élaboration d'une loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure. Celle-ci ne pourra être votée avant la fin du quinquennat puisque ce texte est censé planifier sur 5 ans l'action du gouvernement en matière de sécurité. Une partie de ces annonces sont donc conditionnées à la réélection du chef de l'État.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La primaire à droite sera-t-elle ouverte ou fermée? Ce sera aux militants LR de choisir. Les Républicains se sont réunis ce matin en comité stratégique. Ils ont arrêté deux options, soit un vote réservé aux adhérents LR, soit une primaire plus large, ouverte aux sympathisants de droite. Alexandre Chevaux.
Oui, alors le bureau politique des Républicains validera officiellement mercredi prochain ces deux options, options qui seront ensuite soumises au vote des militants LR réunis le 25 septembre prochain en congrès. Alors tous les candidats sont a priori favorables à une primaire ouverte. Valérie Pécresse y voit un moyen de donner un élan au candidat qui sera désigné. Il s'agit d'un temps pour débattre le fond de nos projets pour la France, explique la présidente de la région Île-de-France, qui pense avoir plus de chances de l'emporter si le vote est ouvert à l'ensemble des sympathisants. Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin n'y sont pas défavorables non plus, mais tous affirment qu'ils se rangeront derrière l'avis des militants. Parallèlement à cela, Xavier Bertrand poursuit sa course en solitaire, en dehors du parti, même s'il multiplie ces derniers temps les appels du pied aux Républicains. « Je n'imagine pas réussir sans le soutien de ma famille politique », a-t-il encore déclaré ce matin dans les colonnes du Figaro. Une certitude, quel que soit le candidat désigné, il ne pourra pas faire sans le soutien politique et financier du parti.
Éric Zemmour atteint 10% des intentions de vote dans un sondage Harris Interactive. C'est une première alors que le chroniqueur ne s'est pas encore déclaré. Éric Zemmour testé dans la seule configuration d'une candidature à droite de Xavier Bertrand à 14% pour sa part. Dans ce sondage encore, Marine Le Pen tombe sous la barre des 20 à 19% derrière Emmanuel Macron à 23%. Alexandre Benalla, sous le feu roulant des questions au deuxième jour de son procès, l'ex-chargé de mission de l'Élysée jugé pour violence volontaire, utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques, port d'armes non autorisées. Le tribunal correctionnel s'est penché aujourd'hui sur l'une des nombreuses zones d'ombre de l'affaire. Quelles étaient donc les fonctions exactes d'Alexandre Benalla à l'Élysée, Marion Dubreuil?
Oui, Alexandre Benalla utilise lui-même des expressions un peu fourre-tout. J'étais chef d'orchestre lors des déplacements du président, coordinateur, facilitateur. L'Élysée, c'était un ovni organisationnel, explique-t-il. Ce qui primait, c'était l'efficacité, la rapidité. Il n'y avait pas de formalisme dans les liens hiérarchiques. Celui qui a l'info, c'est celui qui a l'autorité. C'est la place que vous prenez qui fait la fiche de poste, abonde Maxence Creusat à la barre. C'est l'un des commissaires de la préfecture de police de Paris qui a travaillé avec Alexandre Benalla. Il est poursuivi pour lui avoir transmis des images de vidéoprotection du 1er mai. Le bagout du chargé de mission de l'Élysée est moins efficace face au tribunal. Le soir du 1er mai, Alexandre Benalla envoie un SMS à Emmanuel Macron pour l'avertir de la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous n'avez pas prévenu le directeur de cabinet qui est votre supérieur direct ? Je voulais que le président la prenne en premier. J'ai été loyale. La juge a une toute autre lecture. Vous vous fichez de la hiérarchie. C'est vous qui décidez.
Marion Dubreuil au procès d'Alexandre Benalla.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Dès ce mercredi, les soignants doivent obligatoirement être vaccinés pour aller travailler sous peine de sanction. L'heure est à la fermeté, il n'y aura pas d'exception. À l'hôpital, les soignants non vaccinés seront suspendus sans salaire. Certains refusent toujours le vaccin, comme Alice dans la manifestation marseillaise contre l'obligation vaccinale.
À partir de demain, effectivement, moi, je vais quitter mon poste. En fait, je vais arrêter de travailler au sein, en fait, des services de santé, parce que le chantage actuel, pour moi, n'a pas lieu d'être. En fait, il nous oblige à faire un vaccin qui ne nous protège pas des contaminations. Enfin, si le rapport de force continue auprès de l'État, je vais changer de formation. Et il y aura un soignant en moins en France.
Alice ne souhaite donc pas se faire vacciner. Vous avez les derniers chiffres de la vaccination dans le secteur de la santé, Alice Dangean. Où en est-on ?
Alors, je vous donne un chiffre, 89%, c'est le taux de couverture vaccinale dans les établissements de santé et dans les EHPAD. 89% de soignants primo-vaccinés, car c'est bien de ça hein, dont il s'agit. À partir de demain, les personnels de santé devront avoir reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid. Dans le cas inverse, ils pourront être suspendus. Alors, les bons élèves sont globalement les personnels libéraux. 95% d'entre eux sont vaccinés. On frôle les 100% chez les médecins spécialistes et les généralistes. Ça pêche un peu plus chez les sages-femmes, environ 10% d'entre elles n'ont pas encore reçu leur première dose et il n'y a pas que les soignants. On sait par exemple que près d'un ambulancier sur 10 refuse toujours de se faire vacciner. On pourrait avoir à choisir entre les patients, me confiait le patron de l'une de leurs fédérations.
Élise Dangean, les conditions d'accès au crédit immobilier vont se durcir. Les taux d'emprunt faibles, les projets nés de la crise sanitaire ont fait gonfler les prêts immobiliers plus de 20 milliards d'euros au premier semestre. Les banques posaient déjà des limites dans l'accès aux prêts, des limites qui leur étaient recommandées, mais qui deviennent obligatoires, Carole Ferry.
Oui, c'est une décision du Haut Conseil à la stabilité financière pour être sûr que les crédits octroyés pourront être remboursés. Alors ces règles, elles disent quoi ? Que les mensualités d'un ménage ne peuvent pas dépasser 35% de leur budget, assurance comprise, et que l'emprunt ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Les banques ont le droit toutefois de sortir des clous sur 20% des dossiers, à condition que ce soit pour un premier achat ou que ce soit pour une résidence principale. En réalité, ces règles étaient déjà suivies par la plupart des banques depuis le début de l'année. Elles deviendront contraignantes donc à partir du 1er janvier prochain, c'est-à-dire qu'un établissement pourra être sanctionné si ces règles ne sont pas respectées. Le Haut Conseil, qui associe notamment le ministère de l'Économie et la Banque de France, se dit toutefois convaincu que les banques qui n'étaient pas encore complètement dans les clous, le seront d'ici 2022.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Johnny Hallyday, c'est maintenant une adresse. L'esplanade Johnny Hallyday inaugurée ce matin à Bercy devant l'Accor Hotel Arena où Johnny avait donné 101 concerts. C'est le record. La foule des fans ne voulait surtout pas rater ça. Reportage Johanna Chabas.
Des Santiago, des vestes en cuir, des Harley Davidson, aucun doute, les fans de Johnny sont là. Chantal prend chaque année un jour de congé pour l'anniversaire de la mort du rocker. Avec cette esplanade, elle peut enfin rendre hommage au chanteur, enterré loin d'ici, à Saint-Barthélemy.
À part la Madeleine, on n'a rien sur Johnny, quoi. Donc on viendra se recueillir. C'était le bon Dieu, quoi.
C'est notre Johnny.
Après un discours de la veuve du rocker, une sculpture de 6 mètres de haut a été dévoilée. Elle représente un manche de guitare avec à son sommet la Harley bleue de Johnny. Ses anciens musiciens ont ensuite joué une chanson entonnée par le public, un hommage à l'image du chanteur pour Gilles.
C'est très bien d'avoir fait ce qu'il aimait, la musique, la moto, c'était toute sa vie. Moi il me manque, mais il manquait tous ces gens. C'était notre grand frère, notre père, notre oncle, il faisait partie de notre famille.
Et pour beaucoup de fans, cette esplanade va devenir un lieu de pèlerinage et de transmission. Nathalie sait déjà qu'elle y amènera sa petite fille.
J'ai envie de lui faire découvrir mon univers, donc la plaque, la moto, ça va me permettre de l'emmener quand elle sera plus grande, lui dire voilà, mamie, elle était fan de Johnny. Voilà, c'était un grand monsieur. Et puis il sera toujours là. Il est dans notre cœur et il y restera jusqu'à la fin.
Après la cérémonie, les fans se sont retrouvés au Johnny's Bar, inauguré pour l'occasion. Ils sont exposés des guitares, des costumes du chanteur, des objets prêtés par Laetitia Hallyday.
Voilà, reportage Johanna Chabas. Alors que 10 000 spectateurs assistent ce soir à un concert hommage à Johnny à l'Accor Hotel Arena, sur scène Florent Pagny, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac et bien d'autres. En Ligue des Champions, Lille affronte ce soir, en ce moment même, Wolfsburg à domicile pour la première journée de la phase de poule. On retrouve Sébastien Boet en direct du match du stade Pierre Mauroy. Sébastien, on a eu droit à un petit rebondissement. Lille a bien failli prendre l'avantage.
Exactement, on pensait 0-0 après, donc dans cette seconde période, 55 minutes ici au Stade Pierre-Mont. On pensait que les Lillois avaient ouvert le score à la 47e minute grâce à un but de Jonathan David qui a trompé Castils, le portier de Wolfsburg. But magnifique, mais le but nordiste a été revu par l'assistance vidéo, la VAR, avant d'être refusé. Car au début de l'action, le ballon était sorti des limites du terrain. Le ballon avait passé la ligne de touche de quelques centimètres, qui avait échappé à l'arbitre de touche, qui n'avait pas levé son drapeau. Il avait laissé l'action se dérouler. Pas de but donc, mais comme en première période, eh bien les Lillois dominent avec beaucoup beaucoup d'envie, de combativité. On avait quelques inquiétudes avant ce coup d'envoi pour le champion de France qui est à la peine depuis le début de saison en Ligue 1. Bien pour le moment, ils répondent présents, ils sont rassurants. Cette Ligue des Champions semble les avoir transfigurés. C'est reparti du côté du jeu, ballon perdu par les Lillois. Mais coup de sifflet, il y aura encore un nouveau coup de pied arrêté pour les hommes de Jocelyn Gourvennec. 0-0, 56 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy devant 35 000 spectateurs.
Merci Sébastien Boé en direct de Lille. Les Lillois ce soir à l'avantage face à Wolfsburg. Raison de plus pour refaire un point avec vous tout à l'heure Sébastien, ce sera juste avant 22h30. Les autres résultats ce soir en Ligue des Champions avec une surprise. Les Young Boys de Berne ont battu Manchester United 2-1 malgré un but de Cristiano Ronaldo dès la 13e minute pour son retour chez les Mancuniens. Et puis un partout entre Salzbourg et Séville. La météo pour ce mercredi, Marlène Duret, on en parlait en début de journal, on renouvelle bien sûr les conseils de prudence dans les 12 départements de la moitié sud, encore sous vigilance orange pour des orages.
Oui, alors pour les orages, uniquement les orages, ça va concerner le Puy-de-Dôme, le Cantal et tous les départements qui englobent le Limousin. Et puis à d'autres départements, ils ont droit à une double vigilance, puisqu'en plus des orages, il faut veiller au cumul de pluie. Ce sera le cas pour l'Aveyron, l'Hérault, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Et puis n'oublions pas le Gard qui doit, en plus des orages et de la pluie, surveiller ses cours d'eau. Alors une nouvelle vague orageuse va déjà reprendre cette nuit, Alexandre, du Midi-Pyrénées au Massif central. Les orages vont quitter le sud-ouest demain matin, mais l'ensemble du Massif central restera soumis à ces averses orageuses demain matin, d'ailleurs comme dans le Limousin, en mordant même un petit peu sur le Poitou. Ce sera valable aussi dans le Berry, en Bourgogne et en continuant vers le Lyonnais, la Franche-Comté, le sud de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne. Autour du golfe du Lion et sur les Cévennes, que va-t-il se passer? Encore quelques averses qui vont s'accompagner de coups de tonnerre et puis dans l'après-midi, allez, globalement, le risque orageux va se maintenir au sud et à l'est d'une ligne Bordeaux-Nancy avec une partie plus active entre la vallée du Rhône et le Jura. Il faudra surveiller cette partie de la France. Attention donc aux pluies soudaines et intenses, ainsi qu'aux bourrasques de vent sous les orages. Les températures en journée sur la moitié nord seront comprises entre 20 degrés à Caen et 32 à Ajaccio, avec en général 21 à 25 sur la moitié nord et 25 à 31 au sud. Ça baisse un petit peu, sauf dans le sud-est.
Merci beaucoup Marlène, on fera un nouveau point avec vous sur la météo à minuit. Restez avec nous dans un instant sur Europe 1, Top à Wall Street avec Didier Hamo. L'invité éco ce soir, Louis Godineau, président du syndicat des audioprothésistes, et puis les unes de la presse demain matin. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Didier Hamo nous a rejoint pour Top à Wall Street. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui perd du terrain dans le sillage des valeurs technologiques.
-0,84% le Dow Jones ce soir, 34 577 points. Le Nasdaq, -0,45%, ça baisse, oui, 15 037 points. L'inflation pourtant en août est ressortie à +0,3%, c'est un petit peu moins que prévu aux États-Unis. Du côté des valeurs de technologie, c'est quand même bien rouge avec l'événement du jour. C'était la présentation de l'iPhone 13 d'Apple ce soir. Nouveau design, une batterie plus puissante, des capacités photo-vidéo accrues. Mais le titre n'est pas vraiment convaincu. La bourse en baisse ce soir. Apple, -1%, $148.12. Les valeurs de technologie globalement reculent. -2% Netflix, -0,8% Intel, -0,4% Cisco. Tesla résiste stable à $744. Le pétrole revient aussi en arrière de 0,4%, $70.40. Les inquiétudes financières en provenance de Chine restent sous haute surveillance avec la possible défaillance d'un très gros groupe immobilier chinois écrasé par les dettes. On parle quand même de $300 milliards de dettes. L'euro sur les devises reste assez calme, serein, 1,18 face au dollar.
La bourse de Paris, Didier, a elle aussi reculé en clôture, -0,3%.
Oui, -0,36%, 6652 points. Les volumes d'échange étaient plutôt limités, avec quand même quelques secteurs plus chahutés, comme les banques, Crédit Agricole, -2%, Société Générale, -1,8%, BNP, -1,2%. Là aussi, on surveille la situation chinoise de très près. Même chose pour le luxe, hein, LVMH, -1,5%, Kering, -2,7%, et Hermès, -0,7%, à 1269 euros.
Exception du jour, le titre ST Micro qui résiste à la pression et qui progresse nettement.
Oui, bonne surprise aujourd'hui pour STM, soutenu par le Crédit Suisse qui vise désormais un cours de 46,50 €. Du coup, ST Micro progresse de 3,6%, 39,50 €. Un avis positif donc du Crédit Suisse dans un secteur qui reste très tendu en raison d'une demande toujours aussi soutenue dans le secteur automobile, mais aussi dans les jeux vidéo, dans la domotique. Donc un secteur des puces en ébullition. Les autres places financières sont en baisse en Europe. Bruxelles, moins 0,4. Madrid, moins 0,4 aussi. Londres, moins 0,5. Et le CAC 40 en baisse de 0,36%. 6 652 points.
Merci Didier Hamaud de Boursier.com. Il ne s'est jamais vendu autant de prothèses audio qu'en ce moment. L'invité écho ce soir sur Europe 1, Louis Godineau, président de l'unique syndicat des audioprothésistes, il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Louis Godineau.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du syndicat des audioprothésistes. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous venez de faire publier vos chiffres pour ces derniers mois. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut le dire, il ne s'est jamais vendu autant qu'en ce moment d'appareils auditifs. C'est le cas déjà ? Ce sont des ventes tout simplement records ?
Ce sont des équipements de personnes records, parce qu'il faut parler surtout des personnes qui les utilisent. On a aujourd'hui, depuis le premier semestre 2021, près de 400 000 Français qui ont été équipés donc d'aide auditive. Et avant la réforme du 100% santé, c'était 400 000 Français, mais c'était par an. Un doublement de personnes qui peuvent accéder aux aides auditives grâce au 100% santé.
J'ai lu qu'il y avait près de 70% de personnes équipées de plus par rapport à 2019. Vous venez d'en donner la raison. C'est parce qu'une réforme importante qui avait été promise à l'époque par le candidat Macron et qui s'est formalisée depuis, c'est qu'il y a une réforme du 100% santé pour les appareils auditifs. Sur une petite gamme, il est possible de ne plus rien payer. Et ça a tout changé ?
Ça a tout changé, oui, parce que les Français étaient conscients que de malentendre n'est pas bon pour la santé. N'est pas bon pour la vie du quotidien, mais c'est au-delà de ça. Il y a de plus en plus d'informations sur le fait que c'est mauvais pour l'équilibre psychologique, puisqu'on a plus de dépression quand on entend mal. On est plus isolé, bien évidemment. On a des problèmes au travail. Il y a quand même un quart des personnes qui ont un problème auditif sont des gens qui travaillent. Plus grave encore, on sait qu'il y a des effets aussi sur les chutes et sur le déclin cognitif, voire Alzheimer pour les personnes les plus âgées. Donc on voit bien que quelque part, les gens savaient qu'il y avait un problème. Les produits fonctionnent, sont discrets. On a des audioprothèses qui sont compétents.
Mais c'est vrai que la principale raison, et il ne faut pas se voiler la face jusque-là, c'est que ça coûtait une fortune. C'était hors de prix de s'équiper justement avec des produits dont vous parlez, des produits qui ne se voient pas, des produits...
Je reformule ce que vous venez de dire. Les prix n'étaient pas plus élevés que dans les autres pays d'Europe. C'est le remboursement qui était catastrophiquement bas en France, puisque les prix étaient les mêmes que dans les autres pays d'Europe. Le remboursement, lui, il était très en deçà. C'est pour ça que la réforme est venue régler, je dirais, le principal problème du secteur, qui était un manque de remboursement qui faisait que notamment nos concitoyens les plus modestes ne pouvaient pas accéder à ces produits. Et c'est d'ailleurs l'augmentation, elle est surtout concentrée dans ce panier 100% santé, dans ce panier accessible, mais avec des produits de bonne qualité, sans fioritures, et qui aujourd'hui permet à tout un chacun qui a une mutuelle complémentaire d'accéder à ces produits sans reste à charge si les personnes le souhaitent.
Surtout le fait que cette disposition ait été créée, ça a aussi lancé la concurrence dans ce secteur, parce que tous les grands noms, Afflelou et autres, sont arrivés il y a maintenant quelques années et ça s'est renforcé grâce à cette réforme. Il y a enfin aussi de la concurrence et des grands noms plus grand public où on n'hésite pas à pousser la porte.
Écoutez, je ne sais pas si un spécialiste de l'optique est un bon spécialiste de l'audio,
parce que
La concurrence, elle était déjà très présente. Moi, ce que j'insiste surtout au travers de votre émission, pour insister qu'il y a un accompagnement humain qui est très important et que c'est du soin, c'est de la rééducation plus que l'acquisition d'un objet. Ce n'est pas du tout comme les lunettes. D'ailleurs, le 100% santé prévoit 30 jours d'essai. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que tout le monde connaît, un objet de la vie quotidienne, un bien de consommation qui est une paire de lunettes. Les aides auditives, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour dire c'est différent. Après, il y a des gens qui travaillent bien partout, c'est pas le problème.
Et là, ce que vous conseillez, c'est que malgré tout, il faut aller voir des spécialistes, des audioprothésistes. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des audioprothésistes, parce qu'on aura un meilleur conseil, c'est ça que vous nous dites.
De toute façon, la profession est réglementée, c'est des diplômes d'État, comme les kinésithérapeutes, etc. Donc, c'est forcément des audioprothésistes. Mais ce qu'il faut surtout, c'est
intégrer une démarche de santé avec une prescription médicale et chercher surtout des gens qui ont une bonne réputation. Donc c'est un métier de réputation également et ne pas forcément chercher la réclame, il y en a encore, chercher des bons professionnels parce qu'en fait...
Le problème, c'est les professionnels. Vous faites partie de ces métiers dans lesquels on n'a pas assez formé ces dernières années. On manque terriblement de personnes formées pour faire face à cette hausse de la demande.
Bah écoutez, pas vraiment, puisqu'a priori les gens accèdent. Si on a été capable d'encaisser entre guillemets 60% d'augmentation, c'est bien qu'il y avait des audioprothésistes. S'il en manquait terriblement, les gens, il y aurait 6 mois d'attente, et il n'y a pas 6 mois d'attente aujourd'hui sur le territoire.
Vous n'en manquez pas aujourd'hui, parce que la plupart des acteurs disent quand même qu'on pourra encore aller plus vite et plus loin si jamais on avait encore plus de personnel. Bien sûr qu'il y en a et bien sûr qu'ils sont extrêmement bien formés, mais ce serait pas mal d'en avoir plus. C'est pas votre sentiment ?
Si on en a trop, ça fait des problèmes aussi. Vous savez, il y a des secteurs, notamment l'optique, où il y a trop d'opticiens. Ça a déjà été dénoncé. Et ça montre que ça a une influence sur la qualité, pas vraiment sur les prix. Donc c'est quelque chose qui doit être géré comme le sont les métiers de santé. Et il y a d'ailleurs un observatoire de la démographie des professionnels de santé qui pourra peut-être étudier. Mais ce ne sont pas, c'est pas l'offre et la demande, d'autant plus que c'est remboursé maintenant. Donc ce n'est pas un problème d'offre et de demande, il y a aussi un problème de qualité. D'avoir beaucoup de professionnels, par exemple, mal formés, c'est une catastrophe.
Bien sûr.
Donc les gens peuvent très bien accéder et ne pas utiliser leur matériel. C'est des choses qu'on voit dans certains pays étrangers. Il ne faut absolument pas qu'on aille vers ça. Beaucoup de produits mal réglés, mal utilisés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter.
Vous allez peut-être me corriger, mais j'étais assez impressionné de lire ça. C'est que sous peu, la France pourrait avoir le meilleur taux d'équipement de ses prothèses au monde. C'est vrai ? C'est à ce point-là l'accélération ?
Bah oui, c'est à ce point-là. C'est ce que nous avons justement dévoilé ce matin. Vous êtes en train de nous citer, je vous en remercie. C'est notre communiqué de ce matin. Parce qu'en fait, le taux le meilleur du monde, c'était le Danemark, avec environ 51% de malentendants équipés. Nous étions à 40%. Mais vous comprenez bien, 40% avec 60% d'augmentation, ça passe bien au-delà de 50%. Ça, on sera, donc normalement, sous 2 ou 3 ans, si le rythme actuel perdure, nous deviendrons le pays au monde le mieux équipé, parce qu'en France, on avait la qualité, on avait des audioprothésistes qui étaient connus pour être des bons professionnels, on avait des bons produits, mais ce qu'il manquait, c'était le remboursement. Et là encore, j'insiste, les prix n'étaient pas plus élevés, mais c'était le remboursement qui était plus faible. C'est ce qui a été, je dirais, corrigé, entre guillemets, dans cette promesse du 100% santé du candidat à l'époque, Macron.
Et là, ça ne fait pas partie des produits dont on manque de matières premières, parce que c'est des produits quand même très technologiques. Il n'y a pas de problème pour les produire en ce moment. Vous avez tous les produits dont vous avez besoin.
Pour l'instant, il n'y a pas d'alarme de majeur, mais il y a quelques produits qui sont manquants parce qu'il y a les semi-conducteurs, vous le savez, je pense. Les semi-conducteurs, il y a des tensions, mais pour l'instant, ce n'est pas. Il y a quelques lignes de produits qui sont un petit peu moins disponibles, mais ce n'est encore pas majeur dans notre secteur pour l'instant.
Eh bien, merci pour tous ces détails, hein, et je rappelle que on est en train de connaître une hausse record de la vente de prothèses auditives. On en a même jamais autant vendu qu'en ce moment. Un grand merci à vous, Louis Godinot. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des audioprothésistes. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe.
Merci à vous également, Emmanuel. On vous retrouve par ailleurs de 13h à 14h aux côtés d'Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Votre invité sera le patron des galeries Lafayette Haussmann, le groupe qui a profité des périodes de fermeture liées à la crise sanitaire pour faire évoluer son grand magasin, son vaisseau amiral de Paris.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un petit tour des unes de la presse pour ce mercredi matin. Le tourisme spatial à la une du Parisien aujourd'hui en France avec SpaceX qui va embarquer 4 touristes pour l'espace. Des touristes fortunés forcément qui vont décoller la nuit prochaine pour 3 jours en orbite à bord d'un vaisseau spatial de la société d'Elon Musk. Les Républicains face au cas Zemmour, titre l'Opinion, alors que le polémiste est en pleine promotion de son livre, en préparation de sa campagne présidentielle. Les Républicains s'interrogent, écrit l'Opinion, jusqu'où peut-il séduire leurs électeurs ? C'est vrai qu'on vous parle ce soir sur Europe 1 de ce nouveau sondage Harris Interactive, sondage qui, pour la première fois, porte Éric Zemmour à 10% des intentions de vote dans la perspective du premier tour et dans l'hypothèse surtout de sa candidature à la présidentielle. Libération vous propose une enquête sur le scandale au plomb, sol pollué, enfants contaminés. C'est une enquête en Île-de-France. À la une des Échos, les entreprises face au casse-tête des recrutements. 70 000 offres d'emploi à pourvoir dans l'industrie. Des pans entiers d'activité dans les services sont à la peine. Allez, on retourne tout de suite au stade Pierre-Mauroy à Lille. Première journée de phase de poule en Ligue des Champions. Lille contre Wolfsburg. Sébastien Boé, comment vont les Lillois ?
Eh bien, les Lillois vont plutôt bien. Ils dominent les Allemands de Wolfsburg. Mais pour l'instant, ça ne veut pas. Pas mal d'arrêts de la part de Castils, le portier de cette équipe allemande qui réussit un match impeccable. Pas de but, mais un bon match de la part des Lillois. Et les Nordistes, voilà, je l'ai dit, se procurent les plus belles occasions. Il y a eu cette frappe puissante de Jonathan David, repoussée des deux points par ce portier allemand. Et puis aussi cette tête de Burak Yılmaz. Magnifique le réflexe du portier allemand. Beaucoup de combativité, d'engagement de la part des hommes de Jostein Gourvennec, à qui il ne manque pas grand-chose pour faire basculer la rencontre. Et en tout cas, il peut y avoir un tournant. Ce tournant, c'est cette supériorité numérique depuis la 63e minute. Deuxième carton jaune pour le défenseur central de Wolfsburg, John Brooks. Voilà les Lillois qui sont à 11 contre 10 depuis maintenant quasiment 10 minutes. Est-ce que les Lillois vont réussir à en profiter? La réponse dans les minutes. Il reste encore les 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Domination lilloise, mais pour l'instant, c'est les Lillois qui ne trouvent pas la faille. 0-0.
Merci Sébastien Boé en direct de Lille, 22h31 sur Europe 1. C'est l'heure de la libre antenne, tout de suite avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre. Et vous savez ce que l'on dit avec les Allemands. Nous avons dominé le match, nous avons fait un beau match, mais à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. Donc méfions-nous,
il reste 20 minutes.
Il reste 20 minutes, mais c'est vrai que Lille joue très bien et très surprenant. Mais bon, on croise les doigts pour les Lillois et on pense à tous les gens du Nord. Oui, on en reparle à 23h. À tout à l'heure, Alexandre.